Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit David, on poursuit notre série ce matin sur la première lettre de Jean. Aujourd'hui, nous entendons, peut-être que vous avez déjà entendu, des personnes dire des choses comme « Moi, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. » Ou encore « Oui, je suis chrétien, mais à ma manière. » Et peut-être que beaucoup parmi nous ce matin pourraient affirmer « Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Jésus. » Mais cela soulève une question importante. Comment savoir si notre relation avec Dieu est réelle? Comment savoir si notre foi est authentique? C'est une question essentielle. Parce que nous savons tous qu'il peut y avoir un décalage entre ce que quelqu'un affirme et la manière dont il vit. Il arrive que quelqu'un dise « Oui, Dieu est important pour moi. » Mais quand on regarde sa vie, quand on regarde ses choix, ses priorités, Dieu semble en réalité très loin. Et en fait, ce problème n'est pas nouveau. Déjà au 1er siècle, les églises auxquelles l'apôtre Jean écrit vivaient une situation semblable. Certaines personnes affirmaient être en communion avec Dieu. Elles disaient connaître Dieu. Mais leur manière de vivre semblait raconter une toute autre histoire. Et ce décalage troublait les chrétiens de ces églises. Ils se demandaient, est-ce que ces personnes disent vrai? Et du coup, est-ce que nous-mêmes, nous sommes vraiment en communion avec Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Alors l'apôtre Jean va leur donner plusieurs indices, des indices qui permettent de discerner si quelqu'un semble marcher avec Dieu ou non. Et au fond, tout cela pourrait se résumer à une question assez simple. Comment considérons-nous le péché dans notre vie? Je vous invite à la lecture de 1 Jean, chapitre 1, verset 5 au chapitre 2, verset 2. Vous verrez, j'ai agencé le texte, pas comme d'habitude, parce que la manière dont c'est construit, j'ai trouvé ça tellement intéressant en l'étudiant, et il y a une disposition qui saute un petit peu aux yeux, et j'espère que vous le verrez. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Jean commence par rappeler une vérité fondamentale. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et cela rejoint ce qu'on a vu dans cette introduction, dans ce premier temps de louange et d'adoration. La lumière de Dieu dans la Bible représente tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint. Et donc, les ténèbres représentent l'inverse, le péché, tout ce qui, de manière globale, s'oppose à Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, finalement, tout ce qui est mal. Et Jean va donc donner trois indices d'une marche dans les ténèbres. Premier indice, pensez que le péché n'affecte pas notre communion avec Dieu. Je relis le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Dans la Bible, l'image de la marche désigne souvent notre manière de vivre, nos choix, nos habitudes, notre comportement. Et Jean décrit donc quelqu'un qui affirme « Oui, je suis en communion avec Dieu, mais dont la vie est marquée par une pratique habituelle du péché. » Il y a un décalage entre ses paroles et sa manière de vivre. Il faut savoir qu'au premier siècle, il y avait un courant de pensée qui commençait à influencer l'Église. Ce courant s'appelait, c'est un peu technique, c'est pas grave si vous retenez pas le mot, le gnosticisme, ou le gnosticisme. En fait, il enseignait que tout ce qui était la matière était mauvais, donc notre corps physique étant de la matière, le corps n'était pas bon, et tout ce qui était esprit, de l'ordre de l'esprit, tout ce qui est touché au spirituel, était bon. Et donc certaines personnes tiraient en quelque sorte cette conclusion. Mon esprit est en communion avec Dieu, donc ce que je fais avec mon corps n'a pas vraiment d'importance. Et vous pouvez donc imaginer à quoi cela ouvrait la porte, toutes sortes d'immoralités, et notamment l'immoralité sexuelle. Et Jean écrit à ces chrétiens et leur dit, mais c'est faux. Le péché affecte toujours notre relation avec Dieu. On ne peut pas dire, Dieu est important pour moi, tout en vivant comme si Dieu n'existait pas. Je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais environ 11 ans, un camarade de classe est venu me voir. Il venait d'apprendre que j'étais chrétien. Et il m'a dit, moi aussi je suis chrétien. J'étais d'un coup une joie qui a rempli mon cœur de me dire, waouh, j'ai peut-être un ami chrétien dans cette classe. Et du tac au tac, je lui ai demandé, tu vas à l'église ? Non. Ok. Tu lis la Bible ? Non. Est-ce que tu pries ? Non. Et déjà, à 11 ans, cette joie qui a commencé à s'estomper. Je ressentais de la déception et déjà un décalage. Alors j'étais bien immature spirituellement. Ce n'est pas parce que je vais à l'église ou que je lis la Bible que cela fait de moi un chrétien. Mais parce que la pratique de ces moyens de grâce devrait découler d'une relation avec Dieu. Et finalement, le temps passant et le style de vie de cet ami n'a fait que confirmer qu'il ne s'intéressait pas vraiment à Dieu. Et c'est bien cela marcher dans les ténèbres. C'est une manière de vivre orientée, finalement, vers autre chose que Dieu lui-même. Un refus persistant de soumettre sa vie au rayon de la lumière divine. Deuxième indice, nier que nous sommes pécheurs par nature. Je relis le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. » Certaines personnes affirmaient « Nous n'avons pas de péché. » Autrement dit, nous ne sommes pas pécheurs par nature. De nouveau, l'apôtre Jean affirme « C'est une illusion. Nous nous trompons nous-mêmes si nous affirmons cela. » Nous sommes dans l'erreur parce que la Bible affirme très clairement en Romains 3, 10 « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Troisième indice, nier que nous péchons en pratique, que nous péchons concrètement. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et là, Jean va encore plus loin. Nier que nous avons une nature pécheresse est déjà une illusion, c'est déjà se leurrer soi-même. Mais nier que nous péchons réellement, c'est finalement contredire ce que Dieu lui-même affirme et sait faire de lui un menteur. Parce que Dieu affirme clairement que nous sommes pécheurs. Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et au-delà de ces affirmations, il y a quelque chose peut-être de plus grave encore. Parce que si je ne suis pas pécheur, si je ne pêche pas, alors je n'ai pas vraiment besoin d'un sauveur. Finalement, cela revient à dire « Jésus est mort pour rien ». Alors, après chacune de ces négations concernant le péché, l'apôtre Jean oppose tout de suite, en réponse, ce qui caractérise une personne qui marche dans la lumière. Il va donc, pour chacune, donner un indice opposé. Premier indice, voir le péché tel qu'il est vraiment. Parce que la lumière a cette particularité de révéler les choses telles qu'elles sont. Dans l'obscurité, certaines choses peuvent rester cachées. Mais quand la lumière surgit, tout devient visible. J'ai failli ce matin venir avec une tache sur la chemise et je me suis dit non, ça va distraire, ils vont focaliser leur attention sur cela. Mais si j'avais une tache sur la chemise et qu'on fasse une randonnée nocturne, pleine nuit noire, sans lampe, vous ne la verriez pas. On fait la même balade où, tout simplement ce matin, en plein jour, sous la lumière, cette tâche deviendrait évidente. Marcher dans la lumière ne signifie donc pas vivre une vie parfaite. C'est impossible. Mais cela signifie vivre dans la vérité devant Dieu. Cela signifie être honnête et sincère à l'égard du péché que Dieu met en lumière et nous révèle dans notre vie. Le mot « sincère » est intéressant. Il vient de deux mots latins, « sine sera », qui veut dire « sans cire ». En fait, dans l'Antiquité, certains sculpteurs cachaient les défauts de leur statue avec de la cire. Mais quand cette statue était exposée à la lumière du soleil, la cire fondait et les fissures apparaissaient. Et donc, les sculpteurs honnêtes garantissaient que leur statue était sine sera. Elles étaient sans cire. Et c'est ça, marcher dans la lumière. C'est vivre sans cire devant Dieu et devant les autres. sans chercher à masquer, à cacher nos fissures. Deuxième indice de quelqu'un qui marche dans la lumière, il confesse son péché. Je relis le verset 9, fameux verset, peut-être parmi les plus connus dans le milieu chrétien, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Confesser, ça signifie littéralement dire la même chose à tel ou tel sujet. Confesser notre péché, en fait, ça signifie dire de notre péché ce que Dieu en dit. C'est l'appeler par son vrai nom, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, etc. Si on réécrivait ce verset d'une autre manière, ce qu'on appelle une paraphrase, cela pourrait donner quelque chose comme cela qui pourrait nous aider à saisir à nouveau le sens de la confession. Si nous sommes caractérisés comme ceux qui sont continuellement d'accord avec Dieu au sujet de notre péché, tant dans sa nature que dans ses actes, Dieu est à la fois fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute méchanceté. Cette confession à Dieu est suivie d'une promesse extraordinaire. Dieu pardonne et Dieu purifie sur la base de sa fidélité à ses promesses et sur la base de sa justice. Troisième et dernier indice, je relis 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, les versets 1 à 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean est donc bien réaliste. Même les chrétiens pêchent. Et quand cela arrive, nous pouvons compter sur Jésus-Christ, notre défenseur. Le mot peut être aussi traduit par le terme « avocat ». L'avocat, c'est celui qui se tient à nos côtés pour plaider notre cause. Et que dit Jésus devant le Père ? Il ne dit pas « ils sont innocents ». Il dit « j'ai déjà payé pour leur péché ». Parce que Jésus est déjà mort sur une croix pour nos péchés. Il a déjà satisfait à la justice de Dieu. Son sang nous a purifiés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Nous sommes assurés du plein pardon de Dieu. Et regardez combien cette magnifique et glorieuse vérité imprègne tout le passage dans presque tous les versets sur le thème de la lumière. L'apôtre Jean rappelle cette vérité, on vient de lire celui-là, je relis les deux autres. « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors j'aimerais terminer ce matin par quelques implications de cela. On pourrait résumer en fait la pensée de ce passage ainsi. Le chrétien véritablement en communion avec Dieu ne nie pas ses péchés. Il les reconnaît à la lumière de Dieu, les confesse sincèrement et reçoit le pardon de Dieu sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Première implication, le christianisme n'est pas une religion de gens parfaits. On entend souvent dire Les chrétiens sont hypocrites. Et parfois, malheureusement, c'est vrai. Mais le christianisme n'est pas une religion de gens parfaits. L'Église est un endroit rempli de pécheurs pardonnés. La différence, finalement, entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, n'est pas que l'un pêche et l'autre pas. La différence, c'est ce que chacun fait de son péché. Deuxième implication, la repentance et la foi font partie de la vie chrétienne normale. La repentance et la foi ne marquent pas seulement l'entrée dans cette vie avec Dieu, dans cette relation avec Jésus-Christ, mais elles rythment toute notre vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne ressemble souvent à ceci. Nous marchons avec Dieu, puis Dieu révèle un péché dans notre vie. Nous le reconnaissons, nous le confessons, nous faisons confiance au pardon de Jésus. Et nous continuons à marcher avec lui, avec le désir de nous détacher de ce péché. Et lorsque nous tombons encore, nous le reconnaissons, nous le confessons, nous faisons confiance au pardon de Jésus et nous continuons à marcher avec lui. Troisième implication, lutter contre le péché est plutôt le signe d'une vie dans la lumière. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et me dire des choses comme « J'ai vraiment du mal avec le mensonge. » Il n'y a personne de ciblé ce matin au travers de ça, c'est un exemple. « Je sais que Dieu ne veut pas cela, et pourtant ça m'arrive encore. Chaque fois que je mens, je demande pardon à Dieu avec le désir sincère de ne plus recommencer. » Mais quelque temps plus tard, je retombe et je recommence. Honnêtement, je suis fatigué de cette lutte. Parfois même, je me demande si je suis vraiment sauvé. Ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe encore aussi souvent. Est-ce que Dieu n'en a pas marre de moi ? De mes échecs à répétition. Si quelqu'un me dit cela, je ne suis pas inquiet pour cette personne. Au contraire, cette personne est en train de décrire ce qui ressemble justement à une marche dans la lumière de Dieu. Pourquoi ? Parce que son péché le dérange. Il sait qu'il déplaît à Dieu. Il ne cherche pas à le justifier. Il ne cherche pas à le cacher. Il le reconnaît. Il lutte contre ce péché. Il demande pardon à Dieu. Et il a ce désir de changer. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean nous a décrit dans son passage aujourd'hui. Ce qui m'inquiéterait beaucoup plus, en revanche, c'est quelqu'un qui ment régulièrement, mais qui ne le reconnaît pas. Quelqu'un qui refuse d'écouter quand on lui montre que ce qu'il a fait est contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne semble pas vraiment dérangé par son péché. Qui ne lutte pas vraiment avec son péché. Qui n'a pas fondamentalement le désir de changer. C'est comme ça, et je suis tel que je suis, et je ne changerai pas. Là, on est beaucoup plus proche de ce que Jean appelle une marche dans les ténèbres. Le chrétien, véritablement en communion avec Dieu, ne nie pas ses péchés. Il les reconnaît à la lumière de Dieu. Il les confesse sincèrement et reçoit le pardon de Dieu sur la base du sacrifice de Christ.